Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Marc, afin de lire le texte de la prédication. En Marc 7, des versets 1 à 23. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. » Il appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui, du dehors, entre dans l'homme, qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous donc rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le rendre impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. »
Qui s'est déjà lavé ou désinfecté les mains ce matin?
Nous le faisons tous.
Qui s'est lavé ou désinfecté le cœur ce matin?
Eh bien, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes.
Nous avons besoin d'une action divine. C'est pourquoi nous comptons sur l'œuvre du Saint-Esprit ce matin encore pour saisir ce que la parole de Dieu nous dit, pour purifier notre cœur. Nous continuons ensemble notre périple dans le journal de Pierre écrit par Marc. Jésus a nourri une foule, c'est ce que nous avions vu. Il a traversé un lac en marchant. Et voilà que les pharisiens et les scribes alertés viennent de Jérusalem pour venir examiner l'œuvre de cet enseignant de près. Et là, paf, il tombe sur un non-respect du lavage des mains. Quel mauvais enseignant! Il ne respecte même pas les traditions. Jésus va leur répondre en leur faisant comprendre qu'ils se mettent en fait au-dessus de la loi de Dieu avec leurs traditions qui s'opposent à la loi de Dieu. Puis, il va enseigner la foule sur la vraie pureté. Alors, je vais présenter le menu du jour. Donc, j'ai intitulé cette prédication « Laver les mains ou le cœur ». Et voici les différentes parties. La première partie, nous parlerons de l'importance de laver les mains. Dans la deuxième partie, nous parlerons du mauvais savon. Et dans la troisième partie, de l'importance de laver le cœur. Commençons donc par l'importance de laver les mains. Évidemment, je ne vais pas vous parler de solutions hydroalcooliques, etc. On va réfléchir à ce que la Bible dit. Bon, ben, revenez dans Marc 7. Ouvrez vos Bibles, gardez-les ouvertes dans Marc 7. Nous relisons les versets 1 à 5 pour bien saisir et avoir en tête ces différents éléments. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent alors quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Nous allons répondre ici à quatre questions pour un peu comprendre ce texte. La première, c'est « Que signifie se laver les mains pour les pharisiens ?» Que signifie se laver les mains pour les pharisiens ? Ensuite, nous verrons de quelles impuretés parle-t-il. Nous continuerons avec une question « Connaissez-vous la tradition ?» Et la dernière, quelle est l'importance de la tradition pour les pharisiens ? Alors commençons par la première. Que signifie se laver les mains pour les pharisiens ? Alors, dans notre contexte actuel, nous n'avons pas vraiment beaucoup l'habitude de parler de ce qui est pur, de ce qui est impur, etc. Il nous est parfois difficile de saisir ce dont il est question dans ce texte. Aujourd'hui, c'est l'hygiène qui est au top du classement de ce qu'il faut respecter. L'impureté, ce sont les microbes ou autres virus qu'il faut éliminer en se lavant les mains. Aussi bien des lecteurs actuels voient dans ce texte biblique que les disciples ne se sont pas lavé les mains avant de manger. Les pharisiens ont raison. Pourquoi Jésus réagit-il ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit ici pas d'hygiène. Les disciples ont très bien pu laver leurs mains dans le sens passer de l'eau pour enlever la terre et les petits microbes qui étaient sur leurs mains et les sécher avant de manger. Non, il s'agit ici d'une purification rituelle, d'un lavage cérémoniel. Et voici ce qu'un commentateur dit pour que l'on comprenne un peu ceci. Le lavage cérémoniel prescrit par les pratiques rabbiniques respecte plusieurs étapes. D'abord, l'eau doit être versée d'une cruche sur les deux mains, les doigts pointés vers le haut pour que l'eau coule sur les poignets. Ensuite, l'eau est versée sur les mains, les doigts pointés vers le bas. Et finalement, chaque main est frottée avec le poing de l'autre main. Et le juif strict observe cette pratique avant chaque repas et entre les plats pour avoir les mains rituellement pures. Se laver les mains selon les pharisiens, ce n'est pas enlever les microbes, la terre ou autre poussière sur les mains. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas d'hygiène ici, mais de rendre les mains rituellement pures pour être entièrement pures. Voilà. Rendre les mains rituellement pures pour être entièrement pures. Nous avons donc répondu à la première question. Que signifie se laver les mains pour les pharisiens ? Ensuite, de quelle impureté parle-t-il ? Alors, dans l'Ancien Testament, il est question de pureté et d'impureté. Parce que Dieu a choisi un peuple qui devait refléter sa sainteté. Et l'impureté était symbole du péché qui excluait toute personne d'un acte cérémoniel. On pourrait dire aujourd'hui que celui qui serait impur ne pourrait pas venir avec les autres à l'église pour louer Dieu. Il doit d'abord être purifié. Celui qui n'est pas rituellement pur, dans l'Ancien Testament par exemple, ne pouvait pas manger la Pâque. Et voici les causes d'impureté rituelle. Le contact avec un cadavre, avec la lèpre, avec les écoulements des organes génitaux, la consommation de la chair d'un animal impur. Et pour être purifié, il fallait nettoyer avec l'eau et également offrir un sacrifice qui prend la place de celui qui est impur afin de le purifier. La pureté est un sujet important et Dieu engage son peuple à vivre de manière pure. Mais simplement, les scribes ont petit à petit établit une quantité astronomique de règles pour éviter le danger de devenir potentiellement impurs rituellement. J'ajoute un tas de règles pour que on n'arrive pas au danger de peut-être devenir rituellement impur en fixant d'ailleurs un standard de pureté rituelle que Dieu ne demande pas. Par exemple, il est bien question de la loi du lavage rituel des mains dans la Bible, mais uniquement pour Aaron et ses fils quand ils entraient dans la tente de la rencontre. Donc dans une situation où il n'y a pas d'impureté connue, c'est uniquement Aaron et ses fils qui devaient se laver les mains, enfin ils avaient tout un rituel de lavage, pour entrer dans la tente de la rencontre. Ils ne demandaient nulle part que le peuple pratique le lavage des mains rituel avant de manger. La tradition va en fait bien au-delà de ce que la loi demande. Et c'est ainsi que nous comprenons les paroles de Jésus dans Matthieu 23 qui dit que les scribes et les pharisiens lient des fardeaux pesants sur les épaules des hommes. Donc de quelle impureté parlent les pharisiens dans ce texte? C'est le danger de pouvoir être rituellement impur en ne se lavant pas les mains puisque c'est la tradition qui nous a demandé de le faire. Connaissez-vous la tradition? La tradition, si on veut l'expliquer simplement, c'est un ensemble de règles extra-bibliques censées aider à suivre la loi. La tradition orale a été mise par écrit, que l'on appelle la Mishnah, hein, au niveau des Juifs, qui contient environ 2000 articles. Par exemple, il est question de l'heure du coucher où il faut enseigner les enfants. Parce qu'en fait, dans Deutéronome 6, il est dit qu'il faut enseigner au coucher et au lever. Donc dans la Mishnah, il est expliqué à quel moment, à partir de quelle heure, jusqu'à quelle heure, enfin, etc. Mais pour comprendre la Mishnah, eh bien, les rabbins ont écrit un commentaire de la Mishnah. C'est ce qu'on appelle la Gemara. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que le Talmud, c'est un nom que vous avez peut-être déjà entendu, est constitué de la Mishnah, la tradition orale qui a été mise par écrit, et de la Gemara, commentaire biblique de la Mishnah. C'est en fait la collection de la tradition juive sous forme écrite, qui contient des milliers de pages, avec toutes sortes de choses. Donc le Talmud, il est composé de la Mishnah, de la Gemara, donc c'est une collection de la tradition juive sous forme écrite, contenant des milliers de pages. Ça va très loin dans le Talmud. Donc il y a deux sources de Talmud, et il est même écrit quelque part que si le Talmud dit quelque chose et que la loi dit autre chose, bah quelque part il faudrait quand même écouter le Talmud, ça va loin. Il est bien entendu aussi question de lavage rituel des mains, et les Juifs le font après avoir dormi ou fait la sieste. Vous savez pourquoi? Allez, vous n'avez pas lu le Talmud? Parce que quand vous dormez, un démon s'assied sur vos mains, pendant le sommeil. Et si on ne les lave pas, il risque d'entrer en nous. C'est pas vrai, hein, mais c'est ce qui est cru. Voilà pourquoi faut laver les mains. Ou bien après être allé dans la salle de bain, après avoir quitté un cimetière, après un repas, et même après avoir touché un texte de la Torah qui est écrit par exemple en araméen, dans une autre langue que l'hébreu. Heureusement, c'est purifié quand on le traduit en hébreu. Et quand on parle de lavage, il est encore plus détaillé lorsque les gens rentrent chez eux après être sortis, parce qu'ils ont pu être en contact avec des gens souillés tels que des Samaritains, ou des païens, ou même des Juifs qui sont pas purs. Vous imaginez? Faut tout laver. Tout se laver. Et à la tradition du lavage des mains s'ajoute le lavage du corps complet, les ablutions, plus toute la vaisselle, plus tous les couverts. En fait, l'ensemble de ces lavages rituels faisait que chaque repas était une affaire assez compliquée et méticuleuse. Bon, il est temps de nous poser peut-être la question. Avons-nous notre Talmud pour essayer de respecter les lois de Dieu? Mettons-nous plein de petites règles en place pour essayer de faire ce que Dieu veut, qui peut-être pourrait même arriver à annuler ce que Dieu demande, ou se dire « Ah non, mais je dois respecter l'engagement que j'ai pris !» alors que je vais clairement offenser Dieu en allant contre ce que lui demande. C'est le danger de la tradition. Et quelle est l'importance de la tradition pour les pharisiens? Les pharisiens tiennent tout particulièrement à honorer la mémoire des anciens, de ceux qui ont vécu religieusement avec eux. Et les pharisiens faisaient constamment des références à ceux qui étaient avant eux. C'est-à-dire une grande différence avec Jésus, qui ne faisait pas de référence à ceux qui étaient avant lui. Il disait « Moi, je dis !» Les pharisiens veulent que l'on dise du bien de leurs ancêtres, qui ont mis en place des règles de pureté. Ils vont jusqu'à dire que le salut dépend du respect de la tradition. Voilà pourquoi les pharisiens réagissent si fortement à ce que font les disciples. Ils vont jusque-là. jusqu'à dire que le salut dépend du respect de la tradition. Voilà pourquoi les pharisiens réagissent si fortement face aux disciples de Jésus. Et là, nous devons être prudents. Ça pourrait nous arriver. Quelqu'un pourrait dire, « Ah, il n'a pas arrêté de fumer, il ne peut pas être sauvé. » Y a-t-il une tradition dans l'air ?
Je ne dis pas qu'il faut fumer, ne me comprenez pas mal.
Alors, pour comprendre les pharisiens ici, c'est comme si on se lavait les mains en suivant la vidéo d'explication de l'OFSP. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé. Faire couler l'eau, passer la main sous l'eau, prendre le savon, passer soigneusement entre les doigts. Enfin bon, je ne veux pas faire toute la vidéo. En pensant qu'ainsi, on élimine le coronavirus qui est dans notre corps. En lavant les mains. Mais c'est exactement ce que les pharisiens pensaient. Attention, hein, il est important de se laver les mains dans une situation sanitaire actuelle. Ne me comprenez pas mal. Comme d'ailleurs tout le temps. Mais ce que je dis, c'est que le lavage des mains ne peut pas éliminer le virus qui serait en nous. Et les pharisiens n'avaient pas qu'une vidéo en expliquant le lavage des mains, mais des milliers de vidéos. Enfin, vous comprenez, c'était écrit. De pratiques extérieures qui étaient censées purifier l'intérieur. Se laver les mains est hygiénique et c'est une bonne chose. Mais jamais le lavage des mains ne rendra pur. Aucune bonne action ne peut effacer une mauvaise action. Aucun exploit de bonté ne peut effacer la colère. Si vous avez commis un meurtre, vous pouvez faire tout le bien du monde, la personne restera morte. Il n'y a aucun espoir de lui rendre la vie, même si vous pensez ainsi, en faisant tout le bien du monde, démontrer que vous n'êtes pas une si mauvaise personne. Jésus va démontrer aux pharisiens que leur tradition non seulement ne permet pas de purifier quoi que ce soit, mais place un joug sur les autres et même annule la parole de Dieu lui-même. Voilà, donc nous avons vu la première partie, l'importance de se laver les mains. C'est très important pour les pharisiens. Maintenant, on va parler du mauvais savon. Regardez avec moi les versets 6 à 13 de Marc 7. Jésus leur répondit. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée et vous faites bien d'autres choses semblables. Jésus commence par citer un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe pour souligner que le problème se situe dans le cœur. C'est dans le cœur que se situe le problème. Hein. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Jésus donne ensuite la conséquence. Hein. C'est en vain qu'il me rende un culte. C'est inutile. Cela n'aura aucun effet. Parce que c'est comme s'ils venaient dans la maison de Dieu, mais emportaient leur propre savon pour laver leur cœur. Et Jésus indique ce qu'est ce savon qu'ils prennent avec eux, espérant nettoyer l'intérieur en frottant à l'extérieur. Elle dit en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Et Jésus prend un exemple de leur tradition qui va démontrer que non seulement ils veulent utiliser leur propre savon, mais qu'en fait, en le faisant, ils rejettent la parole de Dieu, seule révélation du savon, en guillemets, qui nettoie le cœur. Nous allons donc réfléchir à deux choses ici. La première, qui me semble vraiment importante pour comprendre le texte, c'est qu'est-ce que le cœur ? Qu'est-ce que le cœur ? Et deuxièmement, nous parlerons de ce sujet de rejeter le commandement au profit de la tradition. Qu'est-ce que le cœur ? En fait, la Bible utilise beaucoup de termes pour parler de l'être spirituel, des pensées, de la réflexion, des désirs, des décisions, de la source de notre motivation. Mais en fait, tous ces termes sont résumés par un mot, le cœur. Le cœur, c'est la racine de notre personnalité, la base, le fond. C'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. C'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, de nos désirs, de nos motivations, de nos réflexions. Le cœur est la raison de nos pensées, de nos attitudes, de nos paroles, de nos actions. Le cœur, c'est le pilote de nos vies, le général de notre personne, le maître de tous nos faits et gestes. Alors si nous voulons comprendre ce que signifie le cœur quand la Bible parle de cœur, c'est de cela qu'elle parle. Avec les trois composantes principales, les sentiments, la volonté et l'intelligence. Et c'est ce cœur-là que Dieu veut proche de lui, selon le texte d'Ésaïe, qui est une parole de Dieu. Mais voilà, malheureusement, les pharisiens rejettent le commandement au profit de la tradition. Dans notre texte de Marc, la parole de Dieu est aussi appelée le commandement de Dieu. Jésus est très clair avec les pharisiens. Il, au verset 8, regardez, vous abandonnez le commandement de Dieu. Au verset 9, vous rejetez la parole de Dieu. Au verset 13, vous annulez la parole de Dieu. Et cela au profit de préceptes humains, de qu'ils rejettent ce qui vient de Dieu au profit de ce qui vient de l'homme. Et il leur donne un exemple. Et Jésus vient sur leur terrain. Nous avons dit tout à l'heure que les pharisiens veulent honorer les anciens en respectant leurs traditions. Or Jésus va donc leur parler d'un commandement de Dieu en lien avec l'honneur des parents. Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est ce que la loi de Dieu dit concernant l'honneur aux anciens. Et voici ce que une des traditions des hommes dit. Alors si un homme dit que sa fortune est réservée à Dieu, et là c'est assez particulier, parce qu'il dit elle est réservée à Dieu, mais il peut continuer à l'utiliser. Hein. Par contre, il ne peut la donner à personne d'autre qu'au temple. C'est ce que le terme corban signifie, au verset 11. Ainsi, les parents qui sont dans le besoin sont privés du soutien de leurs enfants lorsqu'ils ont réservé leur fortune à Dieu. Et les pharisiens, qui profitent de cette richesse, vont empêcher les hommes de prendre soin de leurs parents tout en faisant l'éloge de leurs dons généreux. Ainsi, une règle humaine empêche d'obéir à la loi de Dieu. Une règle humaine empêche d'obéir à la loi de Dieu. Alors à la base de cette tradition, il y a l'idée de protéger la loi de Dieu et d'empêcher ici que quelqu'un ne viole un vœu comme cela est interdit dans Nombre 30, verset 3. C'est sur ça qu'ils vont se baser pour dire, ben voilà, faut plus aider tes parents. Mais nous verrons à la fin de cette prédication, quand on regardera la suite du texte d'Ésaïe que Jésus cite, ben que prendre soin de ceux qui sont dans le besoin fait partie des priorités, justement. Et cela me fait penser au texte de Jérémie 17 qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » En fait, l'homme complique les choses que Dieu a mises en place, qui sont généralement simples, profondes, c'est vrai, mais simples. Mais Dieu est celui qui éprouve les cœurs. Passons maintenant à notre dernier point qui parle du cœur, justement. Jésus profite de cette remarque des pharisiens pour maintenant enseigner la foule. Donc ils veulent que ses disciples se lavent les mains pour qu'ils soient purs. Et Jésus maintenant va dire à la foule, venez, je vais vous parler de ce qui rend réellement impur. Et le troisième point que j'ai intitulé l'importance de laver le cœur. Regardez avec moi au verset 14. Il appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui du dehors n'entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, mais vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme et ne peut le rendre impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Jésus veut que nous comprenions d'où viennent les impuretés. Voilà pourquoi il appelle la foule et leur dit ces deux choses. Ce n'est pas ce qui rentre qui rend impur, mais ce qui sort. Ça, c'est déjà un élément important à comprendre. Ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort. Et deuxièmement, c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises choses. Les pharisiens avaient tellement peur de manger quelque chose qui était impur ou qui avait touché quelque chose d'impur, car ainsi ils deviendraient impurs. Jésus indique que ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué aux toilettes. Voilà. Ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre et est évacué aux toilettes. Ça ne rend pas le cœur impur. L'impureté rituelle servait à illustrer l'état de péché dans lequel nous sommes constamment. Et c'est vrai qu'il était difficile d'être rituellement pur. Cela demandait de grands efforts. Mais ces impuretés rituelles ne pouvaient pas atteindre le cœur. C'est ce qui sort de la bouche qui indique ce qui est dans le cœur. Car les paroles qui sortent de la bouche ne viennent pas du ventre. Ce ne sont pas, c'est pas l'estomac, l'intestin qui tout à coup est en train de faire quelque chose. Pouf, il y a un son qui sort. Non. C'est le cœur qui est le siège des pensées qui envoie les paroles hors de la bouche. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, ne regardez pas ce qu'il mange, mais écoutez ce qu'il dit. Et regardez ce qu'il fait. C'est la tradition qui dit que la nourriture est l'indicateur de la pureté et de l'impureté. Alors que Jésus dit que ce sont les paroles, les actions, les attitudes qui révèlent la pureté ou l'impureté de ce qui guide tout cela. Ah, mais certains me diront, ouais, mais bon, ceux qui mangent gras et sucré, ben, donnent une motivation de leur cœur, non? Peut-être, mais le gras et le sucré ne vont jamais toucher le cœur. Alors, je parle pas de la pompe à sang, qu'on a ici dedans. Je parle de la du cœur selon la Bible, qui est le siège des pensées, des émotions et de la volonté. Parce qu'on peut donner autant d'équilibre vitaminé, protéiné, avec féculents et fibres que vous voulez, ça ne changera pas le cœur. Et le contenu du cœur n'est pas très reluisant. Jésus en fait quelque part une liste assez inquiétante. Il dit que c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises choses. Il dit que c'est du cœur que les mauvaises pensées viennent, les prostitutions, les vols, les adultères, l'amour de l'argent, la méchanceté, la ruse, le dérèglement, le regard envieux, le blasphème, l'orgueil, la folie. Et nous avons tous hérité de cette nature pécheresse. En fait, ce catalogue de péchés que Jésus énumère ici, nous l'avons en chacun de nous. J'ai réfléchi un peu. Et puis je me suis rendu compte que il n'y a aucun élément que je peux dire qui n'a jamais touché mon cœur, qui est dans ce texte. Aucun. On peut comprendre. La notion de prostitution, par exemple, c'est de mettre Dieu après quelque chose de plus important. On est déjà dans ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Un ressentiment face à quelqu'un, un Jean nous dit que c'est un meurtre. Ce catalogue qui est donné ici par Jésus est quelque chose qui est dans notre cœur. Tout ce catalogue de ces impuretés du cœur sont en chacun de nous. Et il n'est pas possible de les enlever par nous-mêmes. La tradition ne peut pas les enlever. Vous pouvez mettre toutes les règles que vous voulez. Vous pouvez un petit peu calmer certains de ces... Dans le catalogue, certains péchés seront peut-être un peu moins présents, en tout cas par moment, peut-être, mais ils seront toujours là. Et Paul avait bien compris que la tradition ne pouvait pas effacer tout cela. Dans Philippiens 3, il dit ceci. « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres... croit pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. » Lui, il a vraiment suivi la tradition. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, donc qui lui mettait de l'orgueil de faire mieux que les autres, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, qu'on n'arrive de toute façon pas à obtenir d'ailleurs, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la personne de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Donc Paul avait compris que seul Jésus-Christ peut laver son cœur, peut quelque part changer ce catalogue Lui seul peut lui donner la justice qui vient de Dieu, fondée dans la foi, qui transforme le cœur. Même s'il est conscient, comme nous le sommes aussi, qu'il y a encore des traces, malheureusement, même quand Dieu a déjà agi dans nos cœurs. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus a mentionné Ésaïe pour mentionner l'hypocrisie des pharisiens, mais dans la suite d'Ésaïe, il a dit ceci. « Lavez-vous, purifiez-vous !» Puis là, il explique ce que c'est. « Ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » En fait, c'est ça, se laver. C'est pas prendre du savon, se laver les mains, et puis comme ça, ben, on est pur, comme les pharisiens le pensaient. Non, c'est « Ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » C'est jamais, c'est dans Ésaïe chapitre 1, et là je vais à travers des versets 16 à 10, à 18. Deuxièmement, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc, Corban, face à ses parents, n'a pas du tout de place face au texte qui est donné ici. Venons donc et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. La purification est faite par Dieu. Et cela est déjà enseigné dans l'Ancien Testament. Les pharisiens le savaient. Et je termine en nous rappelant six clés que nous pouvons tirer de ce texte ici. Ce texte, premièrement, oppose la tradition des hommes et le commandement de Dieu. Tradition des hommes, commandement de Dieu. Ou la purification extérieure et la purification intérieure. Donc ce que je peux nous encourager chacun, c'est de chercher la seconde, la purification intérieure. Parce que la purification intérieure va pouvoir déborder, alors que la purification extérieure ne va jamais pénétrer. Deuxièmement, la tradition ne peut que laver les mains, et nous dire d'ailleurs qu'on n'en a jamais fait assez. Alors que Jésus a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Jésus, troisièmement, libère de la tyrannie de la tradition. Il libère de la tyrannie de la tradition en disant, non, le salut ne passe pas par la tradition. Il passe par moi, par Jésus-Christ. Quatrièmement, ce qui rentre dans une personne ne manifeste pas ce qu'elle est, mais ce qui en sort. Et dernière clé, Jésus purifie le cœur de toute personne qui se repent et croit en lui, ça on le voit tout au début de Marc, ce que la tradition ne pourra jamais faire. Nous allons prier. Éternel, nous te remercions parce que tu es ce Dieu qui nous guide. Nous t'avons prié et nous continuons à te prier que ton esprit agisse dans nos cœurs face à ta parole. Ce matin, nous sommes face à un texte, Père, qui nous paraît un peu étrange parce que nous n'avons pas l'habitude de toutes ces purifications rituelles. Mais j'aimerais te prier que nous puissions saisir les éléments d'enseignement qui nous permettent de comprendre que ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas des actions que nous pourrions faire qui peuvent nous purifier. Même si les actions ne sont pas des mauvaises choses, nous sommes appelés à faire des bonnes actions. Ce n'est pas non plus des habitudes que nous pourrions avoir, même des excellentes habitudes qui vont nous purifier. Même si on est appelé à avoir de bonnes habitudes. C'est toi, toi seul, ô Dieu, qui peut purifier nos cœurs. Et nous te prions de le saisir et de trouver la grâce en toi, et ainsi aussi de faire grâce aux autres, et de nous réjouir que tu es celui qui purifie, de nous réjouir que tu nous purifies, que tu purifies aussi ceux qui sont autour de nous, qui viennent à toi. Et nous, Seigneur, te prier vraiment d'agir dans ta grande puissance et dans ta grâce. Parce que lorsque nous regardons le catalogue de péchés qui sont dans le cœur, que tu nous donnes dans ta parole, et que nous constatons dans nos cœurs, nous ne pourrions être que désespérés. Mais tu es venu, tu as tout accompli pour que nous puissions être libérés, que nous puissions être purifiés de l'intérieur pour ensuite le manifester à l'extérieur pour ta gloire. Que ton nom soit loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.